Boom Bunker Club, conférence du 24 septembre 2020 à Hydrophone. Les hommes lents par Laurent Vidal.
Bonsoir à tous, bienvenue à Hydrophone. Dans des conditions un peu particulières, dues effectivement aux conditions sanitaires que vous connaissez tous et toutes. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence qu'on a déjà imaginée il y a un certain temps avec Laurent Vidal qui est présent à mes côtés. Et on est vraiment, moi je suis particulièrement heureux de faire cette conférence parce que on l'a imaginé il y a déjà quelques années. Ça s'est bien goupillé, notamment avec le musicien qui jouera derrière. Ça s'est imaginé il y a quelques années. En fait, le point de départ, c'est un concert qu'on organisait à la Citadelle de Port-Louis avec la Compagnie des Indes, le musée de la Compagnie des Indes. C'était un concert avec un rappeur rennais qui s'appelle Arm et un musicien aussi rennais qui s'appelle Olivier Mélano, bien connu, musicien de Dominica et Miossec notamment.
En vain dans la tiédeur de votre gorge, mûrissez-vous 20 fois la même pauvre consolation que nous sommes des marmonneurs de mots. Des mots. Quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, nous forçons de fumantes portes.
Et c'était un concert autour d'un livre de Aimé Césaire qui s'appelle Cahier d'un retour au pays natal. C'était le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et sur ce jour-là, il y avait quelques élus, il y avait le préfet qui était présent. Et le concert s'était déroulé et on a vu quelques retours des élus comme quoi le son était trop fort. Et en fait, il y a eu une légère polémique. Hein. C'est plutôt une petite discussion entre les artistes et ces élus sur le volume sonore. Et en fait, les musiciens expliquaient que le fait que ces élus et ces notables, hein, entre guillemets, soient dérangés par le son, c'était volontaire. Voilà. Donc c'était un point de départ. Et puis quelques temps plus tard, je me suis moi aussi intéressé aux histoires de l'esclavage dans les Antilles. Et je suis tombé sur un article, en fait, écrit par Laurent Vidal. À propos de la syncope et le titre de l'article, c'était La ruse des hommes lents. Voilà, c'est ça. Et donc, qui est le thème du livre pour lequel cette conférence est organisée aujourd'hui. Et Laurent va vous parler de la musique à travers cette histoire des hommes lents et des ruptures de rythme, notamment. Et ce qui est bien tombé aussi, c'est qu'à Port-Louis, un garçon du nom de Guillaume Chartin est venu nous voir pour nous parler de son projet de musique électronique. Et lui s'était intéressé aussi à une histoire autour de l'esclavage avec l'esclave qu'ils appelaient Fursi. Je vous montre le livre, voilà, qui est là. Et il a créé toute une thématique autour de ce livre. Donc la mère de cet esclave a vécu à Lorient, c'est pour ça au départ. Et donc cet esclave Fursi, vous pouvez lire l'histoire, hein, c'est abouti à un procès qui a beaucoup plus tard abouti à sans doute à l'abolition de l'esclavage en France. Voilà, donc c'est un bref résumé. Et lui, dans son projet, il intègre beaucoup d'instruments de musique qui sont passés aux Antilles, notamment à travers avec les capitaines des bateaux qui amenaient les esclaves. Parce que les esclaves, ils arrivaient aux Antilles, mais sans rien. Hein. Ils étaient nus comme des vers. Et par contre, les capitaines ramenaient des instruments. Et après, plus tard, aux États-Unis, on en a fabriqué à partir de ça. Bon, Laurent va vous expliquer ça mieux que moi. C'est un spécialiste du Brésil, notamment. Il s'intéresse énormément à la musique. C'est pour ça qu'il est là. Son livre La ruse des hommes lents, c'est un bouquin formidable. Ça parle de musique, mais ça parle aussi de la façon dont on appréhende aujourd'hui, dont on a appréhendé dans l'histoire de la révolution industrielle, le rythme, comment les gens se sont adaptés au rythme ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un débat important qui est rebondi sur l'actualité. On parle de la 5G, on parle peut-être des nouveaux rythmes imposés par le numérique, et on parle aussi des migrants. Voilà, les nouveaux hommes lents, j'en sais rien. Enfin, Laurent va vous expliquer ça mieux que moi. En tout cas, on va parler beaucoup de musique. Et ensuite, concert de Rune juste derrière. Je vous remercie et bonne soirée.
Alors, que vient faire, Thierry l'a dit un peu, mais que vient faire une telle conférence dans une salle de musique? Une conférence avec un titre aussi étrange que Les hommes lents. Je vais peut-être commencer, avant de parler de musique, à vous expliquer un peu ce que j'entends par cette expression des hommes lents. En fait, j'essaie de désigner avec cette expression tout un ensemble d'individus, d'hommes et de femmes d'ailleurs, hein, qui au long de l'histoire, depuis le Moyen-Âge, puis depuis la fin du Moyen-Âge en fait, au moment où les temps modernes se mettent en place et se mettent en place autour d'un rythme, de la promptitude, de l'accélération, il faut être prompt dans les échanges économiques, il faut être prompt dans le travail, etc. Eh bien, on va rejeter tout un ensemble d'individus et les discriminer parce qu'ils ne tiennent pas le rythme, ils ne tiennent pas la cadence. C'est eux, ce que j'appelle les hommes lents. Et c'est-à-dire, pour moi, tous les laissés pour compte de la modernité jusqu'à aujourd'hui, puisque notre président nous a parlé que ceux qui sont contre la 5G sont, veulent vivre au temps des Amish, donc c'est à peu près cela. Alors, la question que je pose, si effectivement ils sont rejetés, discriminés en disant bah, « vous êtes lent, vous êtes incapable », etc., sont-ils à ce point-là inutiles ? Ne contribuent-ils pas, eux aussi, d'une certaine manière, à bah, fabriquer, inventer cette modernité, une autre modernité? C'est un petit peu ça la question que je me pose à partir, ben moi aussi, d'un vers d'Aimé Césaire qui dit ce qui est toujours dans le cahier d'un retour au pays natal, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, mais ceux sans qui le monde ne serait pas le monde. Pour moi, c'est cela, les hommes lents. Alors c'est de ça dont je veux vous parler, de parler également dans, et je vais, puisque Thierry expliquait que j'ai fait un livre, je ne parle pas que de musique, mais beaucoup de musique dans ce livre, et j'ai isolé donc pour cette conférence quelques éléments là-dessus, et je veux montrer comment la musique, eh bien, est une création, justement, dans certaines circonstances. Et certaines musiques sont des créations absolument fabuleuses réalisées par ces fameux hommes lents. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec Nina Simone et son Mississippi Goddam, son foutu Mississippi, où quand elle dit qu'à son peuple à qui on refusait d'accorder l'égalité, on lui disait go slow, allez-y graduellement, hein, ne demandez pas tout d'un coup, et bien elle répondait, et bien d'accord, avec mon peuple, on va le faire lentement, do it slow, picking the cotton, en ramassant le coton, allez-y lentement pour nettoyer les vitres, allez-y lentement, la rupture de rythme comme arme de résistance. Bon, on pourrait l'écouter longtemps, parce que Nina Simone, c'est toujours un immense plaisir. Mais pour commencer, et pour commencer à parler de ces créations musicales des hommes lents, il me faut parler d'une première rencontre, d'une sorte de, moi ce que j'appelle une rencontre primordiale de deux rythmes. Il y a d'abord le rythme de l'océan. Un rythme, écoutez-le, écoutez cette pulsation, ce battement incessant, cette régularité, cette cadence qui est là. Et même s'il est lent à certains moments, furieux à d'autres moments, il imprime véritablement une régularité, comme sorte de toile de fond. Donc, ce rythme de l'océan. Il ne faut jamais l'oublier. Dans ces musiques dont je vais parler, ces musiques atlantiques, l'océan est là. Il fait partie, je dirais, de la rythmique. Et puis, évidemment, il y a un rythme bien plus irrégulier. Ça, c'est le rythme des hommes et des femmes qui vivent autour de l'océan. Hommes et femmes qui travaillent, cultivent la terre, pêchent. Hommes et femmes qui vont également parfois prier, édifier des villes, des monuments. Ils vont se battre, ils vont faire la guerre, ils vont faire la paix. La nuit, ils peuvent chanter, danser, faire l'amour. Enfin, le rythme le plus irrégulier finalement possible. Et ces rythmes, longtemps, se sont faits face à face. Très longtemps, ils se sont regardés face à face. Et puis voilà que, un jour, des bateaux ont commencé à s'aventurer au-delà au-delà du littoral, ont osé tenter de franchir l'océan, ont donné naissance à leur rêve d'un nouveau monde. Et pour construire leur nouveau monde, eh bien, ils ont eu justement besoin de monde. Alors ils ont transporté des hommes, et des hommes sont venus, certains de gré, venus d'Europe, beaucoup de force, venus d'Afrique. Et dans ce transport premier des hommes, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Et je crois que c'est un moment là essentiel, dans ces bateaux qui transportent les hommes, a lieu une rencontre fondamentale de ces deux rythmes, celui de l'océan et celui des hommes. Alors, je voudrais vous présenter quelques-unes de ces, eh bien, de ces créations qui vont naître de la rencontre entre ces hommes, cet océan aussi. Alors, moi, je ne suis pas musicologue. Je suis historien et puis je suis amateur de musique. Et j'aime bien dans le mot amateur, il y a le mot aimer. Donc, j'aime la musique. Je ne suis pas un musicologue au sens où je ne fais pas profession. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, à certains moments, quand des gens se rencontrent, eh bien, au lieu peut-être de discuter, il y a la musique qui va apparaître. Ça, pour moi, c'est une façon de prendre la parole. Et c'est la musique telle qu'elle apparaît à ce moment-là. C'est pas la musique telle qu'elle apparaît comme aujourd'hui, là où nous sommes réunis et tout à l'heure où nous allons écouter un concert. C'est la musique qui vient pour soudain s'imposer comme une façon de prendre la parole. Et ce que racontait tout à l'heure Thierry est intéressant, comment dans cette expérience musicale qui a été faite ici au musée, où les édiles étaient absolument gênés par le volume de la musique. Et bien voilà, la musique elle surgit, elle est là pour perturber un ordre et pour soudain créer, ouvrir le temps et créer la possibilité d'autre chose. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la musique une fois qu'elle est professionnalisée, c'est quand elle apparaît à ce moment-là. Alors, si l'on part à la recherche et si l'on suit un peu cette ligne que je vous propose, cette rencontre entre le rythme de l'océan et le rythme des hommes déplacés, eh bien, peut-être que le premier point de rencontre, pour moi, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert, l'archipel du Cap-Vert, on dit les îles du Cap-Vert, ce sont des îles qui littéralement sont au cœur de cet océan. Elles y sont au cœur d'un point de vue quasi géographique, en fonction notamment des courants maritimes et des vents. Hein, à l'aller, on passe par le Cap-Vert, forcément, par les îles du Cap-Vert. Et elles y sont également, je dirais, d'un point de vue culturel. C'est là que la première fois, on a véritablement inventé, ce sont les Portugais qui ont inventé l'esclavage atlantique. Dès la fin du XVe siècle, les Portugais s'installent dans les îles du Cap-Vert, et là, eh bien, ils achètent, ils font des razzias, ils récupèrent un petit peu partout sur la côte africaine des individus qu'ils réduisent en esclavage et amènent sur les îles du Cap-Vert, où on déstructure les familles, on déstructure les régions d'origine, mais on les organise et d'une certaine manière, on leur apprend à devenir esclaves. Excusez-moi de l'expliquer de manière aussi caricaturale que ça, mais on les forme à devenir esclaves, à travailler la terre, à travailler des produits, etc. etc. Eh bien, c'est là, dans ces îles du Cap-Vert, entre des gens qui, certes, sont originaires du même continent africain, mais finalement ne partagent pas grand-chose en termes culturels, que les premières rencontres musicales vont avoir lieu. Et évidemment, tout à l'heure, Thierry le disait, ils sont partis nus, sans rien. Ceux qui, parfois, jouaient du tambour dans des cérémonies religieuses, sont partis sans rien. Donc là, eh bien, on va utiliser tout ce que l'on peut. Des objets de récupération, on peut creuser du bois, on peut, enfin, tout ce qui est possible sur lequel on peut à peu près taper, et on va aussi utiliser son corps. Ça, c'est très important. Or, ces esclaves, on se rend compte que la musique, elle permet bien de créer une sorte de communauté imaginaire. Hein. Leur communauté africaine ayant disparu, eh bien, on recrée par la musique une communauté imaginaire. Et on parle, on échange également avec cette musique. Et écoutez, ici, ces tambours du Congo. Sauter un peu quelques siècles et je vais vous dire que cette force créatrice du Cap-Vert dans les musiques atlantiques, on l'a redécouverte lorsque a été, je dirais, propulsée internationalement la carrière de Cesária Évora. Cesária Évora, elle est arrivée autour d'une forme musicale. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que ces tambours, ce rythme, on l'appelle le batuku en langue Kikongo. C'est-à-dire, c'est cette langue que l'on utilise dans la région du Congo et Angola. Congo-Angola, cette langue Kikongo, qui est commune à l'ensemble, à ce vaste ensemble culturel, eh bien, batuku signifie un ensemble de tambours. Et c'est le rythme qui sort de cette rencontre des tambours. Eh bien, Cesária Évora, elle est arrivée et elle a été connue en chantant des mornes du Cap-Vert. Et la morne du Cap-Vert, c'est une musique. Bah écoutez, on va commencer par écouter un peu Cesária Évora, Saudade, que vous connaissez toutes et tous.
Quem mostrava esse caminho longe, Hemos traves camino los, es camino pasando me. Saudade, saudade.
Voilà, saudade. On reviendra tout à l'heure, saudade, cette forme un peu, on peut pas, c'est de la mélancolie, enfin c'est à peu près indéfinissable la saudade, mais on peut, on verra le mot, il y a le mot blues qui va apparaître aussi dans les champs de coton aux États-Unis, enfin ce sont des, une sorte de d'émotion, hein, une attente d'un retour impossible en fait. Le blues chante cela, la saudade dont il est question, c'est cela. Eh bien, la morne, elle naît de la rencontre de deux formes musicales. D'une part, le lundu, qui est un ensemble de danse et de chants des esclaves bantous qui viennent d'Angola, avec également, des choros, qui sont des chants mélopés, des personnes qui travaillent dans les champs. Donc, les chants C-H-A-M-P-S, hein, voilà, les chants de canne, par exemple, de canne à sucre, puisqu'on cultive la canne à sucre au Cap-Vert, canne à sucre que l'on déplacera ensuite, eh bien, par exemple, au Brésil. La morne serait née dans la deuxième moitié du 19e siècle, et... Donc elle est véritablement née au Cap-Vert. Et ce qui est intéressant, donc cette musique, on le voit, c'est une musique assez lente, hein, avec des lignes mélodiques très, très harmonieuses. La première morna reconnue, enfin identifiée, date donc de 1870 et raconte, parce qu'il y a la musique et les paroles, ça c'est important de noter qu'il y a des paroles. Ces paroles, elles racontent l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée et donc qui a terminé dans les rues de la capitale et pour vendre son corps. Et puis finalement, heureusement, un curé l'a recueillie et a pu la ramener chez sa mère qui l'a accueillie à bras ouverts, etc. Et en fait, les paroles de ces mornes, eh bien, elles vont commencer à raconter les difficultés du quotidien du peuple. Et ici, par exemple, voilà la façon dont une jeune fille a été abusée. Mais si je parle de la morne, c'est que, certes, on est au Cap-Vert, mais surtout qu'au moment où ces musiques apparaissent, elles n'ont pas de nom. Et donc aujourd'hui, on reconnaît que la première morne a été composée en 1870. Pourtant, lorsque des anthropologues de Lisbonne partent en 1880 pour essayer d'identifier l'ensemble des musiques qu'il y a dans les îles du Cap-Vert, aucune fois le mot morne n'en apparaît. Mais en revanche, il y a un mot qui apparaît, et ça m'intéresse. Ce mot, c'est tango. Il y a une musique identifiée au Cap-Vert qui s'appelle Andamento di Tango 1880. Voilà, alors, ce mot tango. Évidemment, aujourd'hui, on dit tango, tout le monde pense Argentine, Buenos Aires. C'est trop tôt. Le mot tango circule déjà dans l'Atlantique bien avant que la forme musicale identifiée comme tango ne soit apparue en Argentine. Vous savez que l'Argentine est en train de redécouvrir, enfin maintenant ça fait une quinzaine d'années, mais pendant longtemps l'Argentine a vécu un petit peu sur le mythe du tango comme une musique purement européenne, d'origine purement européenne. Or, le tango, on sait aujourd'hui, et toute l'influence africaine avait été complètement passée sous silence. Or, ce mot tango, eh bien, il est présent. Il est présent un petit peu partout dans l'Atlantique. On parle de tango Congo à Cuba. On parle de candombe tango à Buenos Aires, à Montevideo aussi. On parle de tango brasileiro ou de polka tango à Rio. Alors, c'est un mot qui a, disons, notamment à partir du 19e siècle, on commence à lui donner pas mal de définitions. La première définition est assez intéressante parce que 1843, le mot tangos désigne une réunion de gitans. C'est intéressant, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi dans ces musiques atlantiques une influence des gitans, notamment autour du fameux usage du triton dans la musique. 1853, une autre définition du mot tango qui commence à se diffuser. Chanson entremêlée de quelques mots du jargon que parlent les Noirs, jargon vulgaire, tango. Et puis 1862, réunion de danse de Noirs nouvellement arrivés, pratiquant au son des tambours et autres instruments. Et finalement, 1925, fête et bal de Noirs ou de gens des basses couches sociales en Amérique, musique utilisée pour danser dans ces bals. Alors on le voit, tango c'est lié à l'univers noir et l'univers africain. Toujours dans cette langue Kikongo, cette langue de Congo-Angola, tango, ça veut dire le lieu fermé. En fait, c'est le lieu de culte. C'est un endroit où on appelle les dieux pour venir prendre possession des personnes, pour des transes, etc., pour des cérémonies religieuses. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant qu'on dise « ça, c'est du tango à Buenos Aires », eh bien, ce mot est là. Il se diffuse, et ce mot est là, et il renvoie à l'univers culturel africain. Parce que ce sont près de 12 millions d'Africains qui ont été déplacés au Nouveau Monde. Déplacés vers les îles des Caraïbes, déplacés vers le Brésil. Au Brésil, il y a un peu moins de 5 millions. C'est presque la moitié au Brésil. C'est gigantesque, cette violence de déplacement. Et donc, les principaux ports d'arrivée, ben, c'est Rio, la Havane, la Nouvelle-Orléans, Buenos Aires, etc. Et donc, dans ces ports, eh bien, la police, de temps en temps, dit « Ah, là, il y a des réunions de batuques. » Batuques, c'est-à-dire des esclaves qui, le soir, jouent comme ils peuvent du tambour, liés à des rites religieux. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans, sur une place qui est un petit peu à l'arrière du vieux carré, ce qu'on appelle la ville originale, construite par les Français, il y a une place qu'on appelle Congo Square, et où l'administration avait autorisé les esclaves à se rencontrer le dimanche pour célébrer leur, j'y reviendrai tout à l'heure, leur fête. Et eh bien, un autre mot qui va donc circuler dans l'Atlantique, ce mot batuque, et également un autre, c'est umbigada. Umbigada, c'est la danse du nombril. Alors ça, c'est une danse carrément, sans aucun doute, sexuelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le nombril de l'homme et le nombril de la femme doivent venir se toucher à un moment donné de la danse. Donc c'est un acte de reproduction qui est mimé là-dedans. Et ce mot umbigada, on va le retrouver un peu partout. Je voudrais ici vous faire écouter une samba de coco de Recife, au nord-est du Brésil. É o coco de umbigada. É o coco de umbigada. Eu digo o nome desse coco, digo o nome desse coco. É o coco de umbigada. Diga lá que coco é esse. É o coco de umbigada. Guadalupe também tem a boneca de mãe preta, o cariri, o chorão, o pereirão e o barão. Oh, diga lá que coco é esse. É o coco de umbigada. Diga lá que coco é esse. Alors vous voyez la mélopée, là très clairement on est dans une musique qui est faite pour entrer en transe. Hein. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà, donc là aussi, il y a avec cet esclavage atlantique, tout un lexique qui est en train de se disséminer un petit peu partout et qu'on va retrouver dans ses formes musicales, tango, batuk, umbigada et d'autres. Là, je vous en ai pris que quelques-uns. Alors, ça, c'est la base de ces musiques, cette rythmique africaine, d'origine africaine. Et on le voit, elle-même, c'est déjà une musique créolisée, puisqu'elle n'est pas d'une seule région. C'est de la rencontre, entre autres au Cap-Vert, mais ailleurs aussi, évidemment, de ces zones culturelles totalement différentes. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une autre influence dans ces musiques atlantiques, c'est une influence européenne. Parce que les musiques dont je parle, je vous ai parlé tout à l'heure de la morna, je vous parle du tango, on pourrait parler du jazz, de la samba, etc., etc. Toutes ces musiques, elles naissent toutes entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. À peu près en une trentaine d'années, tous ces courants musicaux naissent et se développent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans ces ports du Nouveau Monde? C'est l'arrivée de migrants européens. Alors, eux n'ont pas été amenés de force, mais c'est à peu près la seule chose qui les différencie des esclaves. Esclaves qui, d'ailleurs, ne le sont plus à la fin du 19e siècle, puisqu'ils ont été le dernier pays à abolir l'esclavage, c'est le Brésil en 1888, et les États-Unis ont aboli l'esclavage en 1866. Mais une fois que les esclaves sont affranchis, eh bien, la première chose qu'on fait dans les sociétés, dans ces sociétés américaines, c'est surtout de dire « mais il n'y a pas de travail pour vous ». Donc, il n'y a pas de travail pour vous. Et où vont-ils? Eh bien, ils vont là où on peut trouver un travail à la tâche, non pas un travail avec un salaire et un revenu sur le long terme. Et le travail à la tâche, eh bien, essentiellement, là où on en trouve à la fin du 19e siècle, c'est dans les ports. Dans les ports, quand arrivent les bateaux, quand arrivent les trains, il faut charger, décharger. Et qui rencontre-t-il dans les ports? Eh bien, des gens qui sont tout aussi dépourvus qu'eux. Ce sont des migrants européens qui arrivent quasiment sans rien, essentiellement, la plupart. Ils viennent pour des raisons différentes, mais ils n'ont absolument, eux aussi, ils sont presque, presque nus. Et eux aussi vont chercher du travail sur les ports. Ils vont résider aussi dans des immeubles populaires, alors qu'on appelle le conventillo à Buenos Aires. Ils vont résider dans des favelas, quartiers populaires aussi, à Rio, où ils côtoieront une population noire aussi, et etc., etc. C'est-à-dire que noirs, affranchis, mais rejetés, et européens, à peine arrivés et ayant du mal à trouver du travail, eh bien, vont se côtoyer tant sur les lieux du travail, le port, que dans les lieux de résidence. Eh bien, là, un petit peu partout, eh bien, on va voir apparaître des mélanges musicaux. Et ça, c'est la rencontre entre des instruments venus d'Europe et des rythmes avec des lignes mélodiques européennes, et puis des instruments d'Afrique et des lignes mélodiques africaines. Je vais vous faire écouter ici Jelly Roll Morton chantant Levy Man Blues. Levy Man, l'homme de la levée c'est le quai de la Nouvelle-Orléans.
I'm a levy man. I'm a levy man. I'm a levy man. Yes, I'm a levy man. I said, Captain, Captain, let me make this trip. I said, Captain, Captain, let me make this trip.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces quais, justement? La plupart du temps, on attend. On attend qu'un bateau arrive, ou qu'un train arrive. Et on attend d'être appelé pour pouvoir charger et décharger. Et on vit... les gens, pendant cette attente, que font-ils? Là, on en voit certains qui sont là. Alors, on le voit, lui, il tourne la tête, mais lui, c'est un blanc. Hein. Devant, on a deux noirs sur des balles de coton, puis lui, derrière, est un blanc. Ben, on attend simplement d'être appelé. Et parfois, en attendant, ben, certains commencent à jouer de la musique. Et c'est là un lieu de rencontre qui est essentiel, c'est-à-dire une musique qui naît pour tuer le temps, littéralement. Mais pour ouvrir autre chose qu'un temps, justement, un autre temps qu'un simple temps mort. Pour enchanter, d'une certaine manière, ce temps d'attente. Et des paroles vont commencer à surgir aussi. Par exemple, à La Havane, sur les quais où arrivent des caisses de morue, bien, on utilise les caisses même de morue comme instrument de percussion. Ça donnera par la suite les cajones connus dans la musique cubaine. À l'origine, c'est ça. Ce sont des caisses de morue. C'est-à-dire qu'on prend ce que l'on trouve sur place, et puis voilà. Alors, on le trouve aussi bien, je dirais, sur le lieu du travail, et on les voit surgir, ces musiques, ces rencontres, totalement inattendu. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah ben voilà, allez, venons, on va jouer de la musique. » Non, c'est soudain tuer le temps. Tuer le temps et réouvrir un autre temps. Et puis, la musique, elle peut apparaître aussi dans les lieux de vie, de résidence, les cours intérieurs, des conventillos. On a dit longuement que, par exemple, à Buenos Aires, c'est une des origines du tango, le tango du conventillo. Voilà, alors ça, c'est aussi une origine, c'est-à-dire le lieu du travail et le domicile. Et là, dans les conventillos, eh bien, à Buenos Aires, on dit, c'est pas un conventillo, c'est Babel. C'est-à-dire que les gens ne se comprenaient pas. Les gens de toute origine, une façon d'échanger, c'était la musique. La musique crée une sorte de complicité. Et puis, c'est un moment de rencontre, voilà. Donc on voit, il y a l'incertitude du quotidien, la difficulté à trouver du travail, la répression policière qui est constante sur ces lieux également portuaires. C'est constant, on n'arrête pas d'arrêter les gens. Parce qu'en attendant, ben, certains sont en état d'ébriété, etc. etc. Et il y a des bagarres, il n'y a pas que de la musique, hein, il y a des luttes, etc. Donc la police est omniprésente et dans les paroles d'à peu près toutes les paroles improvisées de toutes les chansons qui vont surgir, la question de la répression policière, elle est très forte. Et puis la répression policière, elle a un autre objectif. C'est que dans tous ces pays, eh bien, être moderne, ça veut dire être civilisé à l'européenne. Donc tout ce qui est des traces de la culture africaine doit être rayé du paysage. Donc, et là aussi, la répression est extrêmement forte sur, par exemple, les rencontres de bateaux, etc., etc. Voilà, donc dans les lieux et les ports du Nouveau Monde, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, cette autre rencontre va avoir lieu avec les Européens. Donc, ces musiques créent créoles, d'une certaine manière, eh bien, elles ont une base rythmique appuyée, des lignes mélodiques prononcées, et elles ont une double influence. Elles sont religieuses, mais aussi profanes. Musique religieuse parce que, et ça c'est notamment une influence africaine, je vous parlais tout à l'heure de musique pour entrer en transe, il y a ici une attente qui est très forte, c'est l'attente du retour. Beaucoup d'anciens esclaves imaginent un retour ou rêvent d'un retour sur une terre qu'ils n'ont pour la plupart pas connue et à laquelle ils n'accéderont jamais. Mais en tout cas, cette attente d'un retour, presque de type millénariste, est là, extrêmement présent. Eh bien, vous voyez ici, là, cette, je vous ai parlé tout à l'heure de Congo Square, ça c'est une gravure qui représente cette rencontre des esclaves le dimanche à Congo Square. Vous avez ici donc les Congas, et regardez, donc vous avez les danseurs, vous avez les chœurs féminins, et vous avez ici à l'arrière les hommes et les femmes qui utilisent leurs mains, leur poitrine aussi, pour accompagner ce rythme. Écoutons ici la musique d'une macumba gravée, enregistrée à Rio en 1942, Macumba de Oshosi. Donc là, c'est pour appeler un dieu. Donc il s'agit ici de créer une sorte de pont imaginaire avec l'Afrique pour maintenir ce lien toujours présent, même si, je vous le dis, la plupart n'ont pas connu. Mais il n'empêche que c'est là, c'est une racine lointaine, elle est là. Et donc cette musique de type religieuse perdure et elle va être extrêmement forte et extrêmement présente dans l'origine des musiques atlantiques. Et donc, je disais musique religieuse, mais musique profane puisque c'est la musique qui surgit dans l'attente du travail, par exemple, ou pour se détendre finalement le soir quand on est rentré épuisé, mais malgré tout, il y a toujours autre chose qu'on attend. Et cette autre chose, pourquoi pas? Après tout, on n'est pas fait que pour travailler. À un moment donné, il faut bien que quelque chose d'autre apparaisse. Eh bien, ces rencontres inopinées dans les cours d'immeubles populaires ou dans les favelas, eh bien, elles servent à ça, à inventer d'autres. Disons, y a un poète brésilien qui dit « L'art existe parce que la vie ne suffit pas ». Je trouve ça très beau. L'art existe parce que la vie ne suffit pas, ben, la musique apparaît parce que la vie ne suffit pas, à un moment donné. À un moment donné, il y a autre chose. Et donc, cette musique profane, et là, on va retrouver, eh bien, dedans, dans les façons dont elle va être jouée, la réunion d'instruments venus d'Afrique et d'instruments venus d'Europe. C'est le fameux bandoneon d'origine allemande que l'on va retrouver par la suite dans le tango, le saxophone qui est belge. On va retrouver aussi beaucoup d'anciens esclaves à qui on avait promis, ou esclaves à qui on avait promis un affranchissement s'ils participaient à des conflits militaires, aussi bien au Brésil qu'aux États-Unis. Eh bien, certains se sont engagés comme musiciens de fanfare dans les armées. Et beaucoup ont appris à jouer du trombone, du cornet, etc., etc. Donc cette expérience militaire de beaucoup d'Africains leur a permis aussi d'expérimenter d'autres instruments qu'ils ne connaissaient pas en Afrique ou qui ne font pas partie, disons, de l'ensemble des instruments d'origine africaine. Ils vont également, mais pas certains, vont amener certains Européens, vont amener aussi des pianos, enfin bon, etc. Donc les grandes métropoles sont les lieux de rencontre de ces hommes, de ces rythmes et de ces instruments. Rencontre, religieux, profane, c'est un peu tout. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Parce que ça me paraît important de vous montrer un petit peu cela. À la Nouvelle-Orléans, Buddy Bolden est peut-être l'un des premiers musiciens, un cornettiste que l'on voit ici, un des premiers musiciens noirs qui va réussir à vivre un petit peu, il vivra plutôt mal que bien, mais à vivre de sa musique, et on le considère comme un des peut-être père du jazz. Alors, je vais vous passer, on n'a aucun enregistrement de lui, mais je vais vous passer Jelly Roll Morton, encore une fois, avec son Buddy Bolden Blues.
Make one more and drums, no rim shots or anything like that, it's coming through like nothing, a little lighter on the guitar, piano swell, trombone's okay. The last one again.
Alors, cette histoire du mot blues, d'ailleurs, dans un titre de chanson, la première fois que le mot blues est utilisé dans un titre, c'est en 1908. Et c'est pas du tout quelqu'un d'origine africaine ou d'ascendance africaine, non, c'est un immigrant italien, Roberto Maggio, qui écrit un ragtime et pas du tout un blues, qu'il appelle « I got the blues ». Il a expliqué bien des années plus tard pourquoi. Et il dit qu'il se promenait justement sur les docks de la Nouvelle-Orléans. Et il a rencontré des Noirs qui étaient là en attente d'un travail. Et il y en avait un qui avait une guitare et qui jouait toujours les trois mêmes notes. Et il disait, mais qu'est-ce que tu joues? Et il lui a dit, I got the blues. Et il a répété « I got the blues, I got the blues ». Et c'est comme ça que Roberto Maggio a décidé d'intituler son ragtime « I got the blues ». Alors, là ici, à droite, vous voyez exactement ce qu'a pu être la réaction des édiles ici, lors du musée, puisqu'ils trouvaient que c'était trop fort. Mais vous voyez, déjà, c'est pas finalement, ils ont fait que reproduire quelque chose qui était déjà problématique pour d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce jazz, enfin cette musique qui apparaît, on va la retrouver aussi. Se professionnalisant un petit peu dans les bastringues qui sont les fameux honky-tonks. Vous connaissez au moins peut-être par la chanson des Rolling Stones les honky-tonks et qui sont fréquentés en fait, sont des bastringues qui sont fréquentés autant par la bourgeoisie que par les dockers. Et il y en avait de partout des honky-tonks. Par exemple, Louis Armstrong dit « Chaque coin de mon quartier possédait un honky-tonk. Il y avait chez Spano, chez Kid Brown, chez Matranga. » Et ce qu'il dit après est intéressant. La première salle du honky-tonk était le salon. Et dans le fond, il y avait deux autres pièces. L'une d'elles était une salle de jeu, l'autre une salle de bal. Eh bien, la musique qui symbolise ces honky-tonks, c'est le ragtime, dont Jelly Roll Morton est un des symboles. Et ragtime, ça vient de « ragd », time, c'est-à-dire, c'est la contraction des deux mots en anglais. Ragtime, ça veut dire le temps haché, Eh bien, c'est exactement cette sensation des gens qui attendent du travail d'avoir un temps haché. Parce que on attend, on ne peut rien faire. Quand arrive le bateau et que l'on est pris, il faut travailler à toute vitesse parce qu'on n'a pas le temps, etc. Et le ragtime, il traduit un petit peu cette expérience de la vie. On va retrouver ça à Rio dans une forme de danse qu'on appelle le miudinho. Miudinho, il s'agit d'avancer les pieds de manière vraiment d'un tout petit centimètre à chaque fois, on avance, et on a le corps tout raide, et en revanche, on bouge les hanches. Ben, cette idée de quelque chose qui bouscule un petit peu le corps, une sorte de mécanique, d'une certaine manière, que l'on reproduit. Donc on voit comment dans ces danses qui apparaissent, dans ces formes musicales qui apparaissent, il y a une correspondance avec l'expérience de la vie, hein, de l'ordinaire des jours. Donc, oui, ce body bold and blues, voilà. Mais je l'ai déjà mis, ce body ball and blues. Donc, je passe. Et je ne sais pas combien de temps... Oui, il faut que je termine, là. Combien? Ah ben, ça va, alors. Donc, je vais arriver. À Rio, parce que quand même que je parle de Rio, quoi. À Rio, c'est le premier port d'Amérique latine à la fin du 19e siècle. Donc là, il y a un trafic incessant. Eh bien, à Rio, on va retrouver juste à côté du port un quartier que l'on a dénommé populairement la Petite Afrique, parce que beaucoup d'esclaves affranchis s'y sont installés en attente et à la recherche d'un travail. Mais en même temps qu'ils s'y installent aussi des maisons de culte religieux. Et il n'est pas rare que, pour échapper à la police, certains dockers décident, lorsqu'il y a une descente, ils vont dans les maisons de culte et ils attendent qu'une information arrive et qu'on leur dise « il y a un bateau, il faut venir décharger ». Et qu'est-ce qu'ils font quand ils attendent ? En fait, ils attendent, et dans les lieux de culte, eh bien, il y a les fameux atabaques, et cette espèce de, ils sont très très fins. Ces tambours, et ils servent à appeler les dieux aussi. Donc ils sont là en toile de fond, et eux ils se mettent à l'arrière, ils se mettent pas dans les salles où se font les cérémonies, ils sont à l'arrière. Et eux ils prennent, regardez, ici tout ce qu'ils ont sur la main, et ça c'est, on en trouve encore, enfin c'est très très rare, mais ça par exemple c'est une assiette avec une fourchette, et on prend l'assiette et la fourchette et on commence à faire un rythme, donc à partir des objets du quotidien. Et là aussi surgissent des formes musicales et avec une poésie populaire qui raconte la difficulté, la violence policière. La première samba qui a été enregistrée au Brésil en 1916 s'appelle « Samba pelo téléphone », la samba par le téléphone, ce qui montre ce lien avec la modernité. C'est le symbole de la modernité en 1916. Et ça raconte qu'ils ont été informés d'une descente de police et donc il fallait partir. Et ce que je vais vous mettre s'appelle batouk en la cozinha. Faire le batouk dans la cuisine, c'est-à-dire dans l'arrière-salle des patrons. Eh bien, ça, c'est interdit. Et parce que j'ai fait le batouk, j'ai été fait prisonnier. On m'a dénoncé. Donc voilà.
Não mole em casa de comadu, não é por tendedu não. Na cozinha muita gente.
Na la cuisine, il y a beaucoup de monde. Batouk na cozinha, la maîtresse de maison ne veut pas. Por causa, à cause du batouk, je me suis fait avoir.
Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme de uma tabuleola. Deixei a cebola.
Alors, rapidement, je pourrais, voilà, vous parler la Havane, juste pour vous faire écouter. Ici, ce sont des caisses de morue dont je vous parlais tout à l'heure sur le port de la Havane. Et ici, c'est le grand Chano Pozzo qui va jouer « Ya no se puede rumbear ». Et là, on va voir le mélange entre des paroles qui sont, à l'origine, on voit des paroles religieuses. Vous allez voir, c'est un appel des dieux. « Oya », on appelle les dieux. Et puis après, c'est la question de l'impossibilité de danser, c'est-à-dire que là, il y a des règles voilà, municipales, policières, enfin, etc., qui font que « ya no se puede rumbear ». J'en arrive à Buenos Aires, dans les conventillos, mais aussi dans les bordels de Buenos Aires, apparaît aussi de la musique. Et ici, dame la lata, c'est une, ça veut dire donne-moi la pièce. C'est-à-dire que quand un client arrivait dans un bordel, eh bien, il achetait la passe et on lui donnait une pièce. Donc voilà, c'est, on lui donnait une pièce pour qu'il la donne à la prostituée. Donc donne-moi la pièce, c'est pour récupérer la preuve, quoi. Et voici. Alors, je vous renvoie à Piazzolla, le grand musicien, et qui a fait un cycle qui dure à peu près 20 minutes, qui s'appelle Histoire du tango. Et la première d'Histoire du tango, ça s'appelle Bordel 1900, et qui montre l'évolution un petit peu du tango. C'est magnifique, Piazzolla. Elles peuvent paraître très différentes, toutes ces musiques, et elles ont des histoires très différentes, et des musicologues nous expliqueront qu'elles sont très différentes. Mais moi, je vois trois points communs. C'est que d'une part, elles apparaissent à chaque fois dans des moments spécifiques, que ce soit des temps d'attente ou des temps d'attente du travail, des moments de fatigue et d'épuisement liés au travail, ou également dans des moments de célébration, de culte religieux. Et elles apparaissent aussi dans des lieux spécifiques. Essentiellement, la plupart sont nés sur les ports, c'est-à-dire ces lieux de rencontre. Et c'est pour ça que à la Nouvelle-Orléans, les gens qui fréquentaient les honky tonks et surtout ceux qui restaient après minuit avaient l'habitude de s'appeler les good time people, c'est-à-dire les gens du bon temps. Et je dirais peut-être qu'on pourrait définir aussi les gens de la bonne temporalité, pas celles qui imposent le rythme moderne de l'industrialisation, mais une autre temporalité, la temporalité des hommes lents. Ça pourrait être ça. Et donc, c'est une façon de réenchanter le temps que cette musique. Deuxième particularité de ces musiques, sont des musiques qui sont toujours accompagnées de danse, et les danses ont des connotations sexuelles qui sont très, très prononcées et qui ont, je dirais, une double signification. D'une part, elles renvoient à des danses de la fertilité, dans ces cultures d'origine africaine, etc. Ça, c'est un héritage. Mais ensuite, rejouer dans le contexte particulier des ports américains de la fin 19e, début 20e siècle, elles servent aussi à choquer la morale bourgeoise. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, beaucoup de musiciens ont dit qu'après minuit, quand la bourgeoisie partait, eh bien, le style de musique changeait, une musique plus lascive pour danser collée. Et alors, par exemple, il y a une danse qui s'appelait Hook Macook, c'est une danse du ventre. Il y a une autre qui s'appelle Stink Music, la musique qui pue. Funky Music, le mot Funky Music, ça veut dire également qui pue. Donc on cherche, il y a véritablement, y compris dans les dénominations, hein, cette façon de choquer. Au Brésil, on voit apparaître des danses où la femme met entièrement son postérieur entre les cuisses de l'homme pendant qu'il danse. Voilà, donc il y a cet objectif de choquer dans les danses. Et puis ce sont des musiques qui utilisent la syncope. La syncope, c'est quoi ? C'est pas une nouveauté, mais toutes ces musiques l'utilisent systématiquement. La syncope, on la voit apparaître même au XIIe siècle déjà, donc c'est pas nouveau. Sauf que là, on l'utilise systématiquement. Et c'est quoi la syncope ? C'est une technique qui sert à prolonger un temps faible vers un temps fort dans un rythme musical. Et moi, je voudrais l'analyser métaphoriquement. Voilà des gens qui sont dans une position de faiblesse sociale. Eh bien, ils arrivent par cette syncope, justement, à prendre et à montrer une force. Un temps, le temps où cette musique a lieu. Mais d'un côté, ils réenchantent le temps, de l'autre côté, ils réouvrent un espace, y compris par la danse. Alors, et là, vraiment, je termine. Toutes ces musiques, après, on les appellera et on leur donnera des noms. Jazz, tango, choro, samba, begin, cumbia, rumba. Et pour moi, c'est musique qui représente l'autre modernité des hommes lents. Et comme les hommes lents sont aussi des femmes, je termine par une chanson absolument fabuleuse de Teresa Cristina, brésilienne, pardon, mais j'aime le Brésil, et qui chante un choro, dont Villa-Lobos disait « c'est notre jazz brésilien ». Et voilà, on cale d'estimation et on va terminer là.
Ai, que dor danada, você pisou na
et ça fait un rappel de Nina Simone.
Sabe lá o que é calo de estimação? Eu tenho calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz tempo quente. Mas esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Eu tenho calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz tempo quente. Mas esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero.
Ai, não me pise no calo. Quanto mais eu falo, mais você me pisa. Por causa desse calo, estou lhe avisando. Eu acabo rasgando a sua camisa.
Ora, deixa de bobagem, mude de conversa. Não me rasgue a camisa, que eu só tenho essa. Quem sofre de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua.
Eu tenho calo que parece gente. Chega o tempo frio, ele faz tempo quente.
O tempo quente e esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero.
Ai, não me pise no calo. Quanto mais eu falo, mais você me pisa. Por causa desse calo, estou lhe avisando. Eu acabo rasgando a sua camisa.
Ora, deixa de bobagem, mude de conversa. Não me rasgue a camisa, que eu só tenho essa. Quem sofre de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua.
Eu tenho calo, calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz tempo quente. E esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero.
Eu não sou comida pra levar tempero.
Eu não sou comida pra levar tempero.